à la 5e édition du congrès virtuel EFT. Je suis Maria Hanel, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème dans son domaine de compétence. Votre passé renfermerait-il les clés de votre maladie? Nous connaissons tous les effets du stress sur la santé. On nous le rappelle régulièrement dans les médias, mais en général, cela concerne surtout le stress immédiat du quotidien. On parle beaucoup moins de l'effet d'autres émotions sur notre santé, y compris les émotions vécues dans notre passé, et des effets du stress qu'elles continuent à générer en nous. Aux États-Unis, le projet ACE, Adverse Childhood Experience, analyse depuis 20 ans la vie et la santé de 17 000 participants. L'objectif est d'étudier le lien entre les traumatismes vécus dans l'enfance et la santé à l'âge adulte. L'une des études spécifiques dans le cadre de ce projet signale avoir trouvé un rapport élevé entre la diversité et la sévérité des mauvais traitements subis dans l'enfance et les facteurs de risque pour plusieurs des principales causes de décès à l'âge adulte. En clair, plus on a vécu de situations difficiles et plus elles concernent des domaines variés, plus on a de risques de développer une maladie à l'âge adulte. Savoir que des traumatismes de l'enfance ou de l'adulte dégradent notre santé, c'est intéressant, mais maintenant, que fait-on? Dans la conférence de ce soir, vous allez découvrir que le passé n'est pas forcément si passé que ça, comprendre en quoi il peut affecter notre santé au présent, et surtout, explorer comment se construire un futur en meilleure santé. Notre conférencière de ce soir a rencontré l'EFT alors qu'elle était encore ingénieure en informatique en arrêt maladie depuis plus de 3 ans pour dépression clinique. Extrêmement sceptique pour commencer, elle a fini par se rendre à l'évidence. L'EFT, ça marche. Elle a alors entrepris un voyage dans le passé et le présent de ses émotions qui l'a amené à revisiter quelques traumatismes avec un grand T et beaucoup de traumatismes avec un petit T. Après avoir évacué sa dépression à la surprise générale, y compris la sienne, elle a choisi de diriger sa vie professionnelle vers le bien-être pour tous. En tant que guide de bien-être, elle accompagne en particulier les personnes qui sont en situation de dépression ou de maladie dite grave ou longue. Elle vit en Irlande depuis bien des années et travaille principalement par Skype, tant en anglais qu'en français. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir ce soir Christine Dizan. Bienvenue Christine.
Merci Maria, c'est un grand plaisir pour moi d'être à nouveau parmi vous. Merci beaucoup de continuer à organiser ce congrès passionnant.
Oui, en effet, ce n'est pas la première fois que tu participes, Christine. Tu nous avais déjà parlé en 2013 de l'impact du stress de diagnostic sur la capacité à guérir. Alors, pourquoi cet intérêt pour des événements plus anciens et a priori, en apparence, sans lien avec notre état de santé actuel?
Tu l'as dit dans l'introduction, nous savons tous que le stress affecte notre santé. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui le démontrent, notamment les effets sur notre système immunitaire. Alors bon, on pense tout de suite au stress du présent, en particulier effectivement le stress induit par la maladie elle-même et le diagnostic, puisque c'est une étape majeure dans toute maladie. Et quand il s'agit d'une maladie chronique ou dite lourde, voire même sans espoir entre guillemets bien sûr, évidemment, le diagnostic c'est un gros générateur de stress. Par contre, c'est vrai que le lien avec la maladie est beaucoup moins évident quand on pense à des traumatismes du passé, que ce soit avec un grand ou un petit T. Alors, on parle en général, quand on pense à un traumatisme avec un grand T, on pense à quelque chose d'évident, genre un accident, le décès d'un être cher, quelque chose comme ça, une situation de violence. Mais à côté de ça, il y a aussi tous les traumatismes avec un petit T, toutes les situations qui ont l'air banales, sans importance, a posteriori, mais qui pourtant ont laissé des traces. Alors un exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, la perte d'un jouet auquel on était attaché, ou bien un regard réprobateur d'un parent, ou une moquerie d'un camarade. rien de bien catastrophique a priori, si tu veux. Pourtant, si un événement de ce type nous revient encore à la mémoire, se pourrait-il qu'il y ait une raison. Peut-être qu'il serait plus important qu'il n'y paraît. Il y a aussi tous les messages qu'on reçoit de manière répétitive, du genre « c'est pas assez bien », du genre « tu pourrais mieux faire », ce genre de choses. Et puis, ce type d'événement remonte en fait tellement régulièrement quand je travaille avec des personnes en situation de maladie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que bah, ça a fini par attirer mon attention. Et les études du type du projet ACE que tu mentionnais tout à l'heure me montrent que ce lien entre maladie et traumatisme passé n'est pas exactement qu'un effet de mon imagination. En fait, dans ce projet tout seul, ils ont sorti plus de 50 études spécifiques sur les 20 dernières années qui détaillent la corrélation entre passé et maladie sur les maladies auto-immunes, les problèmes de maux de tête fréquents, de dos, le cancer du poumon, du sein, du foie, les fractures osseuses, les maladies cardiovasculaires, bien sûr. Donc, comme tu vois, l'éventail est assez large et il y a vraiment un rapport.
Alors, cette étude semble dire que plus on a vécu de situations difficiles, plus on a de risques de développer une maladie à l'âge d'adulte. Ce n'est pas très encourageant.
Non, effectivement. Mais ça dépend de comment on regarde l'information. Tu sais, c'est l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Si tu regardes le verre à moitié vide, tu te dis « bon, j'ai vécu toutes ces situations de mon passé, on me dit que ça explique la maladie d'aujourd'hui, donc c'était écrit, donc je peux rien y faire. » Donc évidemment, vu comme ça, c'est tout sauf encourageant. Mais tu peux aussi regarder le verre et le revoir à moitié plein. Tu vas dire « ah ouais, ma maladie est la réaction de mon corps à tout ce que j'ai vécu. » Alors si ça marche dans ce sens-là, peut-être que ça marche dans l'autre sens. Si ça tombe en faisant la paix avec mon passé, d'une certaine manière, je pourrais aider mon corps à guérir. Donc là, ça change complètement l'optique. Alors on peut se dire, oui, c'est un peu fer bleu cette histoire, parce que le passé ne peut pas être changé, sans compter tous les éléments purement physiques,
oui,
de sous-symptômes.
Mm-hmm.
Mais bon, ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Si je reviens au projet ACE, l'objectif original, c'est de mieux comprendre le lien entre les difficultés de l'enfant et la santé de l'adulte, pour aider à améliorer les efforts de prévention et de réparation, comme ils le disent. Alors là, c'est sur la partie réparation que je voudrais m'intéresser, même si évidemment la partie prévention.
Oui, parce que quand on est à l'âge adulte, il est trop tard de prévenir ce qui nous est arrivé dans l'enfance.
Exactement, mais je crois que tous les parents font de leur mieux pour prévenir une belle enfance, mais c'est un autre sujet. Donc bon, on va pas s'amuser à éplucher ici cette étude ou une autre, mais on peut quand même en tirer quelques enseignements. Par exemple, dans les traumatismes qui prennent en compte, il y a les situations de violence domestique ou autre, bien sûr, mais aussi les séparations ou divorces des parents, qui sont des situations qui sont vécues de plus en plus de gens. Ils prennent aussi en compte ce qu'ils appellent l'emotional neglect. Alors, c'est bien plus que juste de la négligence, c'est plutôt carrément de l'incurie. Et je cite, « On a demandé aux participants si leur famille leur donnait le sentiment d'être spéciale, aimée, et si leur famille était une source de force, de soutien et de protection. » Alors là, tu vois, on parle bien d'un lien émotionnel autant que physique.
Mais c'est bien beau, mais si la maladie est déjà installée, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard?
Ah, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu devrais le savoir.
Ah, c'est rassurant.
Bon, alors pour ceux qui en doutent justement, je les invite à faire des recherches sur Internet sur les cas de plus en plus nombreux de personnes dont la situation était a priori sans solution, entre guillemets, et qui pourtant non seulement ont guéri de leur maladie à divers degrés, mais en réseau général, se portent mieux après qu'avant leur maladie. Bon, je ne vais pas recommencer, je m'avais cité un certain nombre la dernière fois. Mais ne serait-ce que si je prends mon cas, quand je me rappelle la tête de la psychiatre du travail, quand elle m'a dit que je n'étais plus en dépression clinique, moi-même, je n'étais pas très convaincue à ce moment-là. Mais alors, elle avait manifestement un gros problème à comprendre comment j'avais réussi une telle performance. Donc, je suppose que je peux me classer dans cette catégorie des guéris improbables. Même si, dans mon cas, la maladie n'a jamais directement menacé mon pronostic de vie à court terme, du moins pour le niveau physique. Et puis surtout, je suis plus que confortée dans cette idée quand j'entends mes clients me faire part de tel ou tel commentaire étonné de la part d'un médecin ou d'une infirmière sur l'évolution de leur maladie ou bien sur la manière dont ils réagissent à des traitements particuliers.
D'accord. Alors, depuis tout à l'heure, tu parles de maladie. De quel type de maladie est-il question ?
En fait, de toutes les maladies, à tous les degrés. Alors, on pense au cancer, aux maladies dégénératives, auto-immunes. Il y a tous les problèmes chroniques, l'asthme, les allergies, les problèmes de dos, de sommeil, des soucis chroniques, ou la fibromyalgie aussi qu'on rencontre de plus en plus souvent. Et même, dans une certaine mesure, des maladies bactériennes, comme la maladie de Lyme, qui est aussi en extension. Et puis, bien sûr, on pense à la dépression, ou même une simple déprime. Alors là, je te propose une vue un petit peu différente de la maladie, parce que quand on pense maladie, on pense à une sorte de punition, un verdict, si
tu veux. Oui, une épreuve.
Voilà, une épreuve. Et au risque de choquer, ce que je te propose ce soir, pendant l'heure qui vient, c'est de considérer la maladie plutôt comme une sorte de message du corps qui exprimerait une réaction à notre vécu et à la manière dont nous le ressentons. Alors, si on prend cette approche, ça peut s'appliquer à toutes les situations, puisqu'on ne va pas traiter le messager, la maladie, mais bien l'origine du message, les souffrances du passé qu'on a gardées en nous. Et là, les possibilités deviennent vraiment sans limite. Et il arrive même que cette démarche aide à supporter les effets secondaires d'un traitement médical, par exemple.
Ah oui, comme on avait eu un témoignage en 2013 de la part de Emma, je crois, qui avait suivi le congrès, qui avait découvert l'EFT à ce moment-là, alors qu'elle commençait un traitement en chimio. Et le fait de suivre toutes ces conférences, de faire le ménage, effectivement, dans tous les domaines de sa vie, ça lui avait permis de mieux supporter les effets secondaires. Et en plus, elle a fait un travail spécifique avec toi, je crois.
Oui, je me rappelle de ce témoignage, tu as raison.
Alors, s'il faut faire l'inventaire de tout ce qui nous dérange dans notre vie, ça pourrait prendre du temps. On n'est pas arrivé là.
Ah oui, non. Ça, c'est mon petit côté normand. Mais oui, c'est effectivement, ça peut paraître énorme à première vue. Tu te dis, je ne vais pas écrire toute ma vie. Mais finalement, c'est peut-être pas si gigantesque que ça quand on considère les possibilités que nous offre le FT. Parce que c'est quand même un atout de taille. C'est l'occasion de dire merci à Gary Craig, le créateur de l'EFT, d'avoir mis cet outil fabuleux, non seulement de l'avoir créé, mais en plus de l'avoir mis à disposition pour la planète. L'EFT nous simplifie vraiment sérieusement la tâche pour, je dirais, deux raisons majeures. La première, c'est le phénomène de généralisation qui avait été identifié par Gary. Mettons que tu aies 10 événements difficiles. Une fois que tu as transformé, vraiment transformé, on va voir comment en profondeur, ton ressenti sur deux ou trois de ces événements, tu pourrais bien découvrir que les autres, finalement, n'ont plus aucune charge émotionnelle pour toi. Bonus, un effet secondaire désirable. Ça, c'est un truc que j'adore avec les effets secondaires. Alors, j'ai un exemple en tête, c'est pas un cas de maladie. C'est une petite fille de 9 ans, qui très très douée, dont les résultats en maths avaient soudain chuté de manière inquiétante. Alors, il faut savoir que ça se passe aux États-Unis. Et comme elle était surdouée, sa scolarité avait été adaptée, donc elle suivait les cours de 1 ou 2 ans plus haut en maths. Donc il restait toujours l'option de la faire redescendre, mais ça lui plaisait pas du tout. Il a suffi en fait de 2 séances avec elle pour qu'elle retrouve les résultats qui la satisfaisaient, donc du 20 sur 20 partout si tu veux. Mais là où je veux en venir, c'est que elle se souvenait de 3 situations où elle n'avait pas compris aussi vite ou aussi facilement, ou des devoirs qui n'avaient pas marché. Et où elle avait déduit, tout à fait inconsciemment bien sûr, que elle n'était pas assez bonne, d'où la chute des notes. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 3 événements, le premier, il nous a pris un bon moment à transformer, le deuxième, un peu moins longtemps, mais une fois qu'on est arrivé au troisième, ça n'avait plus aucune importance. Donc, je t'invite d'ailleurs à revoir son histoire que sa maman et elle ont accepté de partager sur mon site, c'est mignon comme tout, et puis c'est intéressant. Voilà, donc évidemment, quand on arrive à une situation de cancer ou autre, on ne parle pas de 3 devoirs loupés. On parle d'une liste beaucoup plus longue, beaucoup plus ancienne, de cicatrices beaucoup plus profondes, beaucoup plus douloureuses. Mais c'est quand même la même règle, comme pour Emma d'ailleurs, que tu citais plus tôt. Voilà, donc outre ce premier aspect, le phénomène de généralisation, il y a aussi l'impact au quotidien du travail déjà effectué.
Qu'est-ce que tu entends par là?
Je vais prendre un exemple. On va parler de Bernadette, par exemple. Alors, Bernadette est déprimée, elle a l'impression que le monde est contre elle, et elle a des preuves. Son histoire est parsemée d'épisodes où elle a joué malchance, tout simplement, ou bien où on lui a fait des mauvais coups, que ce soit volontaire ou non, c'est pas la question. Le fait est qu'elle en souffre. Elle a 30 kilos en trop, elle a des problèmes aux articulations, elle a une longue liste de problèmes, en fait. Tout ça, c'est autant de preuves que tout est contre elle. Mais bon, elle s'engage quand même dans un travail, et en travaillant sur l'une de ces fameuses preuves d'un événement passé, elle transforme sa réaction, elle se retrouve en paix avec cette situation concernée, et puis, perplexe, plutôt contente, elle revient quand même à la scène suivante, puis elle me dit qu'une collègue lui a fait un commentaire agréable auquel elle s'attendait, mais vraiment pas du tout. Pas du tout l'habitude de ça. Voilà notre Bernadette qui est toujours aussi intriguée, bien que méfiante, on n'oublie pas que les preuves que le monde est contre elle, elle pourrait en remplir un livre entier. Mais la machine est lancée. Plus on avance, plus on transforme de preuves en non-preuves, et plus elle commence à observer dans son quotidien des contre-preuves. Donc au milieu de ses problèmes habituels qui ne vont pas quand même s'arranger du jour au lendemain, elle prend quand même conscience d'un regard, d'un mot, d'un geste gentil, qui sent paniquer, que ben finalement peut-être que le monde n'est pas complètement contre elle. Du coup, elle va se détendre. Et à chaque fois que s'enlève un événement, ben elle se détend un peu plus. Du coup, son niveau de stress descend, elle entasse moins de problèmes, son système immunitaire, son niveau d'énergie remonte, ses symptômes, ses douleurs diminuent, son médecin lui dit bah dis donc qu'est-ce que vous faites, mais ça va beaucoup mieux. Il y a de moins en moins de preuves. Et son quotidien devient de plus en plus facile. Donc, si tu veux, un jour, elle va finir par se rendre compte que sa vie est devant elle, et puis qu'elle a bien envie de la croquer à pleines dents, maintenant que le monde est à son service. Mais au début, elle avait devant elle un Himalaya. Et puis, on a enlevé quelques cailloux, c'est devenu une montagne, et puis c'est devenu une colline, et puis finalement, ben, tu vas arriver avec juste un petit caillou que tu peux écarter du pied. Donc voilà, pour résumer la réponse à ta question, faire l'inventaire de tout ce qu'on a vécu, nettoyer tout ce qui nous dérange dans notre vie, c'est peut-être pas une tâche si impossible que ça. D'une part grâce à l'effet de généralisation et d'autre part grâce à l'impact exponentiel de chaque transformation qui allège un peu plus la charge à chaque fois. Donc ça peut se révéler plus ou moins long, mais on n'a pas forcément besoin d'une démarche de A à Z. Sans compter que, selon les cas, on n'a pas forcément besoin de remonter très loin pour trouver une solution, si on en croit par exemple les travaux du docteur Hammer.
Le docteur Hammer, tu peux nous rappeler ses théories?
Brièvement. Alors, brièvement, le docteur Hammer, c'était, on parle des années 1980, ça a commencé, il a perdu son fils dans des circonstances violentes et imprévisibles, et puis 6 mois après le décès, il s'est retrouvé avec un cancer des testicules. Il a fait rapidement le lien de cause-effet entre les deux événements, et puis il a engagé des années d'études sur des milliers de patients, et il a déduit qu'il existe un lien direct et physique entre un choc reçu et la réaction du corps. Donc il a créé une nouvelle discipline qu'on appelle en France la nouvelle médecine, et qui propose, si tu veux, une sorte de cartographie de la plupart des maladies et de leurs causes possibles dans l'histoire de la personne, scanner du cerveau à l'appui. Ce qui est intéressant, c'est que ces travaux ont été le point de départ d'autres théories d'ailleurs, comme la biologie totale des êtres vivants du docteur Sabat, ou le décodage biologique de Christopher Fleisch. Et dans toutes ces théories, on retrouve la même progression qui part d'un événement extérieur, lequel touche un ou plusieurs sens. Ces sens éveillent une émotion, pas la même pour tout le monde. On réagit tous différemment à une situation. Tu prends 4 personnes qui ont assisté à un accident. Peut-être que tu as une personne qui a déjà vécu un accident, ça va être un gros problème pour elle, et puis une autre personne qui va plus s'intéresser au service de secours, par exemple. Tu n'as pas du tout le même vécu. Donc bref, tu as l'épisode, tu as l'essence, l'émotion. L'émotion va déclencher ce qu'on appelle un conflit biologique qui, lui, va provoquer un symptôme. Sachant que dans chacune de ces théories, comme si on revient à la médecine chinoise d'ailleurs, à chaque organe correspondrait un type de conflit, un type de problème. Donc la maladie dans cette optique-là est vraiment la réponse du corps à un déclencheur externe. Dans la théorie du docteur Hammer, il s'agirait d'un événement récent, de quelques mois à quelques années tout au plus. Et lui, il préconise de résoudre le conflit par une action, un changement de travail, de partenaire, ce genre de choses. Alors bon, ceci dit, selon mon expérience, ce genre d'action, effectivement, ça peut amener un élément de solution, mais je peux te dire qu'en tant qu'expatrié, pensez quelque chose aussi, je suis bien placée pour savoir que quand on déménage, on amène ses problèmes avec soi, dans les bagages.
Et oui, on a essayé de les évacuer, mais c'est pas toujours possible, ils se cachent dans les cartons.
Exactement. Donc je pense qu'il est quand même souhaitable d'aller chercher un peu plus profondément. Et puis quand on commence à regarder plus profondément, il n'est pas rare qu'on finisse par tomber sur une espèce de cocktail qui est composé des événements vécus dans l'enfance, dans l'adolescence, dans la vie d'adulte. Et puis aussi beaucoup de croyances qu'on en aurait retirées, comme Bernadette tout à l'heure, qui croyait que le monde était contre elle, ou bien d'autres qui pensent qu'ils ne méritent pas le bonheur, ou qu'ils ne sont jamais assez bien, ou qu'il est dangereux de parler, ce genre de choses. Voilà.
Donc, tu es en train de nous dire qu'en faisant le ménage dans notre passé, la maladie s'en va ?
Je suis en train de dire qu'en faisant le ménage dans les émotions que notre passé déclenche en nous, consciemment ou pas d'ailleurs dans certains cas, nous pouvons aider notre corps à activer ce mécanisme de guérison de la même manière qu'il a activé les mécanismes de la maladie. Alors bon, c'est sans doute l'occasion de rappeler que l'EFT, c'est pas un acte médical, pas plus d'ailleurs que le décodage biologique tel que le définit son auteur Christian Flech. Ce sont des outils que chacun peut utiliser à son échelle. Chacun peut tapoter sur soi au quotidien. Et puis, quand une situation est trop difficile, par contre, il est fortement conseillé de travailler avec un ou une thérapeute fiable avec qui vous vous sentez en sécurité. Et bon, c'est vrai qu'il arrive de plus en plus que l'EFT soit aussi utilisé par le personnel médical.
Oui, et nous avons des intervenants dans le congrès virtuel de l'EFT qui viennent du monde médical, comme docteur Julien Drouin cette année, docteur Timès l'année dernière. Effectivement, ça rentre, parfois par la petite porte, mais ça fait son chemin.
Ben, et puis des fois, par la plus grande porte, pour ceux qui aiment bien les données scientifiques, on voit fleurir dans les 10 dernières années les études sur l'utilisation de l'EFT dans ce domaine-là. Par exemple, il y en a une sur l'EFT pour atténuer les effets secondaires du tamoxifène, qui est utilisé dans les thérapies hormonales contre le cancer du sein. Il y en a sur l'EFT pour la fibromyalgie, dont je parlais tout à l'heure. Tout ça, malheureusement, est en anglais pour le moment. Mais bon, dans mon cas, pardon, je ne suis pas médecin, je rappelle toujours, comme tu le faisais au début, de consulter un médecin pour tout problème médical. Mais bon, ceci étant clarifié, oui, en faisant le ménage dans notre passé, je pense que nous aidons notre corps à guérir. D'ailleurs, je te propose une petite démonstration, au passage.
Allons-y.
T'es prête?
Oui.
Est-ce que tu pourrais, alors t'es pas obligé de partager, hein, du tout, mais chaque personne qui écoute, si vous voulez faire le même exercice, pensez à un souvenir désagréable ou une personne de ton passé qui a laissé un sentiment un peu désagréable.
Oui, je dois pouvoir trouver ça, oui. J'ai une personne qui me vient à l'esprit.
Bon, quand tu penses à cette personne, comment est-ce que tu te sens?
Toute petite.
Ben. C'est du passé pourtant. Et pourtant, ça te stresse?
Oh oui. Oui, il y a un stress, oui.
Et ben voilà. C'est QFD, comme on disait quand j'étais plus jeune en maths, ce qu'il fallait démontrer.
Ah, toi aussi, en fait, tu as gardé des traumatismes du passé.
Moi, non.
Le truc QFD.
C'est pas un traumatisme, ça, c'est un enseignement. C'est pas pareil. Ça dépend. Mais en tout cas, oui, t'as raison. Notre passé, il est quand même bien présent en nous. En fait, d'ailleurs, notre subconscient n'a même pas la mesure du temps. Ça aussi, ça se démontre de plus en plus scientifiquement.
Oui.
Pour le subconscient, cet événement, CQFD ou autre, et surtout, le stress qu'il occasionne, lui, il est toujours actif. La plupart du temps, ça se passe à notre insu. Mais je vais reprendre le cas de Tessa. On avait aussi fait une séance avec sa maman sur un devoir de maths de la maman, donc dans son enfance, qui ne hantait pas précisément ses nuits, mais alors une fois nettoyée, elle s'est sentie beaucoup mieux, à sa grande surprise, parce que c'était pas un truc important. Mais quand même, tout ça s'entasse. Donc, tant que le passé nous stresse, le bien-être, ça reste difficile à approcher. D'où ma suggestion d'explorer notre passé pour évacuer ce stress, parce que c'est un bon investissement sur le bonheur, justement.
Alors, comment on peut s'y prendre pour explorer ce passé?
Le plus difficile, c'est toujours le premier pas. Moi, je te proposerais 3 étapes, en fait. C'est un peu comme un voyage. La première étape, c'est d'abord d'avoir envie de faire un voyage. Sinon, c'est même pas la peine de partir. Donc, dans notre cas, l'envie du voyage, c'est de considérer la vie de l'autre côté de la maladie, de voir, même de jouer à ressentir un petit peu ce que ça serait cette vie de l'autre côté de la vie libérée. Alors on va peut-être se dire à ce moment-là, ah oui, j'ai mon passé qui a amené ça, ok. Mais on peut aussi se dire, ah mais dans mon passé, il y a peut-être des solutions. Et là, on met la casquette de Sherlock Holmes et on enquête. La curiosité n'est pas un vilain défaut. En fait, c'est même une énorme qualité pour ce type de voyage. Oui. À condition de la diriger un peu, ceci dit. Il ne s'agit pas de se dire, oh, je me demande si ça peut m'aider. Mais plutôt, je me demande comment ça va m'aider. Quelle solution je vais trouver, où je vais les trouver. Donc, première étape, envisager le voyage et ses possibilités. Deuxième étape, normalement, c'est de se préparer, c'est de faire les bagages, les billets. Alors là, c'est très simple, les bagages, on n'a pas besoin de les faire, on les a en nous. On se les trimballe même partout.
Oui, c'est pratique, on risque pas de les oublier.
Voilà, on risque pas de les oublier. Donc, cette deuxième étape, dans notre cas, c'est simplement, entre guillemets, de prendre la décision de se lancer. Soit seul, si on le souhaite, ou, comme je disais avant, avec quelqu'un si on est en situation trop difficile, mais de prendre cette décision. Et la troisième étape, c'est aussi un petit machin tout petit au début, c'est partir, tout simplement. Donc, dans notre cas, c'est contacter la personne avec laquelle vous voulez travailler, ou mettre en place une routine qui vous convient pour intégrer l'EFT dans votre quotidien, ou bien les deux. Mais en gros, un, possibilité, deux, décision, trois, action.
Oui, bah, ça a l'air facile dit comme ça, Christine. Oui. Ça l'est réellement?
Bah, oui, non. Alors, bon, il y a le côté, on entend parler des, tu sais, des merveilles minutes que définissait Gary Gregg, et elles existent, j'en vois régulièrement. Je repense à une cliente il y a quelques semaines qui a commencé, la seconde séance en me disant, oh, tu es une magicienne. Bon, c'est toujours agréable pour commencer la journée. Mais en fait, c'est pas, bon, j'ai été instrumentale si tu veux, mais c'est elle qui, grâce à la méthode du Matrice Réimprinting, c'est une application particulière de l'EFT, avait en fait transformé un cauchemar qu'elle avait régulièrement depuis son enfance en une image plutôt joyeuse, on va dire.
Oui.
Et alors tu vas te dire, il s'agit d'un rêve. Mais dans son cas, ce cauchemar en particulier était le soutien de la fameuse croyance, qui ne concerne personne bien sûr, du pas assez. Je ne suis pas assez bien, il n'y aura jamais assez, etc. Donc c'était vraiment beaucoup plus qu'un rêve dont elle s'est libérée. C'était une nouvelle porte qui s'est complètement ouverte. Et puis dans le domaine du physique, je pense toujours à Linda et à son visage gonflé suite à une opération de la mâchoire qui a dégonflé en 20 minutes sous mes yeux. En plus, j'avais même pas vu. Tout ce que j'avais vu, c'est qu'effectivement, elle avait plus de douleur, qu'elle était capable de parler. Mais c'est quand on est allé revoir les gens qui l'avaient vu avant et après les 20 minutes et que j'ai vu leur tête, que je me suis dit, ah oui, il s'est passé quelque chose là. Donc, oui, effectivement, son visage était complètement dégonflé. Il y a des fois où c'est pas très facile. Tellement qu'il faut se pincer pour vérifier qu'on ne rêve pas, mais c'est vraiment, vraiment loin d'être la norme. En particulier quand le corps est arrivé à un état de maladie. L'itinéraire est quand même beaucoup plus long, même s'il y a quand même des étapes qui sont très libératrices.
Qu'est-ce que tu appelles des étapes libératrices?
Le mieux, c'est sans doute de te donner un exemple. J'aime bien donner des exemples. Je pense à une personne souffrant d'une maladie orpheline. On va l'appeler Clara, par exemple. Elle avait un événement qu'elle avait simplement mentionné au début, sans me dire de quoi il s'agissait, sauf que elle pourrait jamais en parler. Alors ça, ce genre de choses, c'est un petit peu comme d'agiter un drapeau rouge devant un taureau. Quand on me dit ça, ça attire mon attention. Donc, j'ai mis ça dans mes petites notes et quelques temps après, j'ai ramené l'événement mystère et la possibilité que peut-être il puisse transformer un morceau de solution. Entre-temps, Clara, sur une ou deux séances, s'était libérée de la charge du diagnostic, sachant que pour elle, c'est un diagnostic dont elle n'avait pas pu parler pendant 20 ans de souffrance quand même. Donc là, elle s'est dit, ah, si je peux me libérer de ça aussi, l'événement mystère, donc, pourquoi pas? Donc, à nouveau, avec le matrice Réimprinting, cet événement qui concernait une peur d'abus sexuel où il n'y avait pas eu d'acte, mais qui était extrêmement traumatisant pour elle, est devenue l'occasion pour elle de regarder en face son agresseur, de se reconnecter avec sa force, sa puissance à elle, sur sa vie à elle, de dire non tout simplement. Donc c'est toujours, un stress de moins à porter, deux, une ouverture sur quelque chose qu'elle peut prendre en charge. Et puis, ben, un autre cas, on va l'appeler Solange par exemple, d'une personne qui vivait dans la peur de rechute de son cancer, qui avait aussi un événement intouchable, non, je pourrais jamais en parler. Alors dans son cas, il a fallu être un tout petit peu plus convaincante pour qu'elle choisisse de l'explorer, mais le résultat, ça a été le même. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a pu en parler, ça a libéré quelque chose en elle. Elle a aussi pu dire non à cette situation violente. Et bon, dans ce cas, il restait des aspects de l'événement à traiter par la suite. Mais c'est pas moi qui choisis à quel rythme on va. Chacun va à son propre rythme, pas au mien. Donc voilà, c'est ça que j'appelle les étapes libératrices. Les étapes où on se donne la possibilité de s'exprimer. Je pense que ces deux exemples montrent bien que tout ce qui n'avait pas été exprimé, ça pèse, ça gangrène, ça désagrège, ça pollue l'organisme. Ça utilise une énergie précieuse qui pourrait être redirigée pour construire la guérison, par exemple, à la place.
Oui, ce silence qui peut être extrêmement chargé et qui peut coûter cher sur tous les plans, effectivement. Alors, est-ce que tu as une idée comment nous aider à exprimer tout ça? Donc là, il ne s'agit pas forcément de dire vos secrets de famille, tout ça, hein, mais commencer à exprimer, à adresser ces problèmes dont vous ne pourrez jamais parler.
Presque jamais. Bah oui, c'est peut-être le moment de tapoter. Il paraît que c'est un congrès sur l'EFT.
Eh ben oui, EFT.
C'est nouveau celle-là. Bon, eh ben alors je te propose de te prendre en charge, comme tu as rappelé au début. Respire un grand coup. Vérifie ta position, les deux pieds de préférence posés par terre, les jambes pas croisées. Et puis, quand tu penses, et pour toutes les personnes qui écoutent, quand on pense au fait de ne pas avoir pu s'exprimer ou de ne pas pouvoir s'exprimer maintenant, quel est le sentiment qui remonte? Alors, selon les personnes, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'angoisse. Est-ce que tu as un sentiment qui monte?
Je pense à un événement de mon passé où, effectivement, j'ai été forcée au silence pendant un certain temps.
Ok. Et c'est quoi? C'est de la colère? C'est la peur?
L'impuissance.
L'impuissance, d'accord. Si tu mettais une mesure sur ton impuissance, tu partirais à combien?
Ben, le fait est que j'ai déjà fait un certain travail là-dessus, mais là, quand je me reconnecte à ça, j'en suis à 4. Une intensité, c'était à 2, 4, l'intensité maximale est en 10.
Donc justement, pour les personnes qui écoutent, je vous invite à faire la même chose, à mesurer ce qui vous vient à l'esprit. Alors je pense au verbe exprimer d'ailleurs dans les deux sens du terme. Il y a exprimer par la parole. Et puis, il y a le sens purement physique, qui est d'extraire ou de faire sortir un liquide par pression. Alors ici, évidemment, pas question d'exercer une pression quelconque sur qui que ce soit, physique ou autre, mais simplement de s'ouvrir à la possibilité que l'on pourrait autoriser notre organisme à exprimer de nos cellules ce qui a besoin de l'être. Voilà. Autre chose aussi, j'utilise le point des poignets qui se trouve en tapotant l'intérieur des deux poignets l'un contre l'autre, que tout le monde n'utilise pas.
Si vous portez une montre, c'est le moment de l'enlever.
C'est le moment de l'enlever ou de la repousser, voilà, vers le haut. Alors, t'es prête?
Oui.
On est parti sur le point de karaté?
Même si j'ai en moi tellement de choses à exprimer.
Et que, alors là, je vous invite à mettre votre mot, ça me met en colère, ça me rend impuissante, ça me rend triste, ça me fait peur.
Et que ça me provoque plein d'émotions.
Je choisis d'exprimer l'air que j'ai dans mes poumons.
Je choisis d'exprimer l'air que j'ai dans mes poumons.
En toute sécurité, à mon rythme.
En toute sécurité et à mon rythme.
Même si j'ai en moi tellement de choses que je n'ai jamais pu exprimer.
Même si j'ai en moi tellement de choses que je n'ai jamais pu exprimer.
Et j'ai gardé en moi, là encore, ce que vous avez gardé, colère, impuissance, tristesse, peur.
Et j'ai gardé en moi toutes ces émotions.
Aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité.
Aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité.
D'apprendre à m'exprimer facilement et naturellement.
D'apprendre à m'exprimer facilement et naturellement.
Même si je porte beaucoup trop de choses inexprimées.
Même si je porte beaucoup trop de choses inexprimées.
Dans mon cœur et dans mon corps.
Dans mon cœur, dans mon corps.
Sans oublier ma tête.
Et sans oublier ma tête.
Je m'ouvre aujourd'hui à la possibilité.
Je m'ouvre aujourd'hui à la possibilité
De passer à une nouvelle étape de ma vie.
De passer à une nouvelle étape de ma vie.
Et si m'exprimer devenait naturel?
Et si m'exprimer devenait naturel?
Je commence au-dessus de la tête. Toutes ces choses inexprimées.
Toutes ces choses inexprimées.
Et les sourcils. Peut-être que mes parents ne m'ont pas appris à m'exprimer.
Peut-être que mes parents ne m'ont pas appris à m'exprimer.
Peut-être qu'ils m'ont empêché de m'exprimer.
Peut-être qu'ils m'ont empêché de m'exprimer.
Sous l'œil. Ou peut-être que c'était mes grands-parents ou un prof.
Ou peut-être que c'était mes grands-parents ou des profs.
Sous le nez. Ou bien des camarades de classe ou des frères et sœurs.
Ou des camarades de classe, les frères et sœurs.
Peut-être qu'on se moquait de moi.
Peut-être qu'on se moquait de moi.
Peut-être que j'avais peur des regards menaçants.
Peut-être que j'avais peur des regards menaçants.
Sous le bras. Peut-être que ça ne se faisait pas tout simplement de dire ce qu'on ressentait.
Peut-être que ça ne se faisait pas tout simplement de dire ce qu'on ressentait.
Sous la poitrine. Et moi maintenant, j'ai toutes ces choses que j'ai gardées en moi.
Et moi maintenant, j'ai toutes ces choses que j'ai gardées en moi.
Prenez, là encore, je vous invite à prendre votre propre image. Ça me ronge les sens, c'est lourd à porter, ça me serre la gorge, ça me serre le cœur.
Toute cette pesanteur.
Cette pesanteur. Okay. Et la tête? Il paraît qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Il paraît qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Il est des sourcils. Mais pour moi, il est trop tard maintenant que j'ai ça.
Mais pour moi, il est trop tard maintenant j'ai ça.
Alors ça peut être une maladie, ça peut être des kilos en trop, ça peut être une addiction, ce que vous voulez. Hein. Côté de l'œil. Je pourrais exprimer ce que j'ai ressenti.
Je pourrais exprimer ce que j'ai ressenti.
Ce que j'ai ressenti ce jour-là et ce que je ressens encore.
Ce que j'ai ressenti ce jour-là et ce que je ressens encore.
Sous l'œil. Ah, le passé, c'est le passé. Inutile de le remuer.
Oh, le passé, c'est le passé. Inutile de le remuer.
Sous le nez. Mais je me demande comment je me sentirais.
Mais je me demande comment je me sentirais.
Si je ne portais pas tout ce passé douloureux.
Si je ne portais pas tout ce passé douloureux.
Je m'entends. Ça fait trop mal d'y penser.
Ça fait trop mal d'y penser.
Je préfère laisser tout ça bien caché.
Je préfère laisser tout ça bien caché.
Avec eux. Puis en même temps, je suis pas sûre.
En même temps, je suis pas sûre.
Que ce soit bien efficace de garder tout ça enfermé.
Que ce soit bien efficace de garder tout ça enfermé.
Sous bras. Peut-être pas, mais je ne sais pas encore faire autrement.
Peut-être pas, mais je ne sais pas encore faire autrement.
Je fais de mon mieux.
Je fais de mon mieux.
Ma poitrine. Je ne savais même pas que j'avais toutes ces choses à exprimer.
Je ne savais même pas que j'avais toutes ces choses à exprimer.
Poignée. Et s'il n'était vraiment pas trop tard?
Et s'il n'était vraiment pas trop tard?
Sur la tête, je ne sais pas par où commencer.
Je ne sais pas par où commencer.
Il y a du sourcil, on va faire un petit peu le tour là. Il y a tellement de colère en moi.
Il y a tellement de colère en moi.
Côté de l'œil, tellement de tristesse, d'impuissance, de chagrin.
Tellement de tristesse, d'impuissance, de chagrin.
Sous l'œil. Peut-être aussi de la honte, de la culpabilité.
Certainement aussi de la honte, de la culpabilité.
Sous le nez, jamais je pourrais me libérer de tout ça.
Jamais je pourrais me libérer de tout ça.
Sous le menton. Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau.
Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau.
Salicule. Et si je commençais par la première chose qui me vient à l'esprit?
Et si je commençais par la première chose qui me vient à l'esprit?
Sous bras. Et si j'avançais à tout petit pas, mot après mot?
Et si j'avançais à tout petit pas, mot après mot?
Sous la poitrine. Et si je pouvais ouvrir tout ce bagage émotionnel en toute sécurité?
Et si je pouvais ouvrir tout ce bagage émotionnel en toute sécurité?
Poignet. Et si je pouvais m'exprimer?
Et si je pouvais m'exprimer?
Et exprimer de mon être toute cette charge.
Et exprimer de mon être toute cette charge.
Au-dessus de la tête. Libérer mon cœur?
Libérer mon cœur.
Libérer ma tête?
Libérer ma tête.
Et même mes cellules.
Et même mes cellules.
Merci.
Merci.
Respire un grand coup. Si vous avez de l'eau, faites comme moi, buvez un petit moment. Un petit coup, s'il vous plaît. Pardon, j'en perds mon vocabulaire. Et puis, c'est le moment de mesurer. Donc, on était parti pour toi d'une impuissance à 4. Alors, petite note juste à ce propos, si jamais il arrive que ce genre de protocole déclenche un débordement d'émotions, si c'était votre cas, si vous écoutez, continuez à tapoter en nous écoutant, concentrez-vous sur votre respiration. Si vous avez en vous la puissance de déclencher une réaction, d'abord ça montre que quand on tapote, il se passe des choses, mais ça montre aussi que vous avez la puissance de déclencher la réaction inverse. Donc, tapotez, respirez, gardez bien vos yeux par vos pieds par terre. On va continuer à
garder plutôt les yeux ouverts.
Garder les yeux ouverts, oui.
Pour ne pas plonger complètement dans le passé.
Ensuite, ta réaction à toi, Maria.
Bah, il y a de la détente, voilà. Et vous m'avez probablement entendu bailler comme une crocodile. Et je profite au passage pour signaler que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce que je m'ennuie.
Oui, le bâillement est très classique, c'est un très bon signe, on adore voir les gens bâiller.
Oui, oui, et j'ai bien senti qu'il y avait des choses qui s'exprimaient à ce moment-là, donc oui, beaucoup de détente, et si je me reconnecte à cet événement, oui, l'impuissance est moindre. Je disais 4 tout à l'heure, là je suis peut-être à 2.
Là c'est bien.
Et on a fini sur le merci, Christine. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on dit merci?
Ah bah oui, c'est ma petite touche finale à moi. En fait, on parle souvent de l'intérêt de ressentir et d'exprimer, voire d'écrire carrément la gratitude au quotidien. Alors en fait, excuse-moi, tu m'as fait rigoler tout à l'heure. C'est vraiment un chapitre à part entière, la gratitude. Comme le pardon d'ailleurs, qu'on ne va pas aborder aujourd'hui parce qu'il faudrait plus de temps. Mais ce sont tous les deux vraiment des éléments clés de toute guérison. On apprend aux enfants que merci, c'est le mot magique pour leur apprendre la politesse. Mais en fait, c'est vraiment un mot magique. Je dis maintenant merci à ma dépression et toutes les personnes que je connais qui sont passées de l'autre côté de leur maladie sont aussi arrivées au point où elles remercient cette maladie. Aussi choquant que ça puisse paraître à première vue parce que sans cette maladie, elles ne seraient jamais devenues les personnes qu'elles sont devenues. Donc, merci Maria de t'être prêtée à ce protocole. Je vous propose, pour ceux qui écoutent, et pour toi aussi, là, de noter tout ce qui vous est venu à l'esprit, les situations, des personnes, des croyances, tout ça, c'est des choses que vous pouvez tapoter. Et puis, pour ceux qui réécoutent la conférence, vous pourriez bien constater qu'à chaque fois que vous suivez le protocole, vous avez de nouveaux indices qui apparaissent.
Bien sûr, on peut le faire et refaire. Et il va toujours y avoir quelque chose de nouveau qui se présente. Ce ne sera jamais pareil. D'où l'importance de réécouter, même si vous suivez en direct, vous pouvez toujours refaire et continuer à faire les protocoles. Mais justement, j'ai envie de noter plein de choses, mais il faut quand même qu'on continue et l'heure tourne. Et il peut y avoir beaucoup de choses qui viennent à l'esprit à ce moment-là. Par où commencer?
Par le commencement, bien sûr. C'est facile.
Merci.
Alors, de rien, c'est gratuit. D'abord, cette idée s'exprimer, qu'est-ce qu'elle laisse en toi. Donc, il y a toutes les personnes qui n'ont pas accès à leurs souvenirs, d'ailleurs. Très souvent, ils ont réprimé la possibilité de s'exprimer parce que c'était pas permis dans leur famille ou parce qu'il y avait un événement très douloureux pour eux, que le meilleur moyen de se protéger pour eux à ce moment-là, c'était, un, d'ignorer la douleur, de faire comme si, de surtout pas le ressentir, et comme ça, on est tranquille, on n'a pas besoin d'exprimer puisqu'on ne le ressent pas. Donc le fait de s'exprimer, alors à ce moment-là, c'était leur solution, et ça a marché, ça les a protégés à ce moment-là, mais c'est devenu un problème quand le subconscient qui ne considère pas le temps, lui, il a compris qu'il fallait utiliser la même recette dans toutes les situations. Et puis on arrive au bout du compte et on n'a jamais su s'exprimer. Donc, c'est un exemple type d'un problème qui est en fait une solution qui a mal tourné, comme beaucoup de problèmes. Donc un, le fait de s'exprimer, grosse chose. Deuxième chose, quel souvenir déclenche une réaction? Alors, ça peut être, dans certains cas, il y a des réactions très, très physiques sur certains souvenirs. Je pense à une autre personne récemment. Après un entretien initial, quand une personne décide de travailler avec moi, je lui demande de remplir un petit questionnaire. Et à la première séance, on relie le questionnaire ensemble pour explorer les différentes pistes. Dans ce cas-là, en arrivant sur les événements du passé, j'ai à peine lu le début de la première phrase de sa réponse écrite qu'elle a eu une réaction vraiment très violente. Respiration bloquée, des larmes, tremblements, je te laisse imaginer. L'événement, c'était une fessée, qu'elle avait reçue à l'âge de 5 ans, et elle en avait une quarantaine. Et elle avait aussi une longue liste de problèmes de santé. Alors évidemment, on n'a pas continué sur le questionnaire, on s'est concentré sur ce sujet jusqu'à ce qu'elle puisse parler de la fessée sans aucune charge émotionnelle. Et rien que d'avoir été libérée de cet événement-là, ça a quand même déclenché beaucoup de choses chez elle. En plus, elle en a eu une preuve tout à fait concrète et pratique, un de ces effets secondaires que j'adore. Ce jour-là, elle a définitivement arrêté de se ronger les ongles, une habitude de toute une vie. Bon, c'était pas prévu, mais c'est toujours agréable.
C'est un bonus.
C'est le bonus. Donc, si vous avez des événements de ce type, surtout ne vous jugez pas. Une fessée à 5 ans, c'est pas bien grave quand on est une grande fille. Certains qualifieraient ça d'un traumatisme avec un petit T. Mais alors, pour elle, je peux dire que c'est un traumatisme avec un gros T, un très très gros T. Et avec beaucoup de sentiments derrière, le sentiment de pas être comprise, etc. Aucun événement ou souvenir n'est trop petit pour être important. Donc, si ça vous vient à l'esprit, quel que soit le ça, il y a une raison. Quelle que soit votre réaction, intense ou pas, explorez. Alors, dans certains cas, c'est facile parce qu'on comprend déjà intellectuellement l'indice qui se présente à nous. Il suffit de suivre le fil. Dans d'autres cas, le souvenir peut être trop douloureux ou encore on peut croire qu'on en avait fini avec parce qu'on a déjà travaillé dessus tout à l'heure, comme tu disais, dans cet événement. Et puis, on peut, même quand on a parfois une forte réaction physique, on peut carrément refuser, inconsciemment bien sûr, de voir où est le problème. Donc, dans ce cas-là, le processus pour débloquer cet événement est un peu plus complexe et il est préférable d'être assisté, mais à faire vaillant, rien n'est possible. Donc, je rappelle, zéro jugement. Ensuite, vous n'avez peut-être pas d'événement aussi intense, mais vous en avez sûrement d'autres. On parle beaucoup en EFT de la PPP. La procédure de paix personnelle, pour ceux qui connaissent pas, qui consiste justement à lister tout ce qui nous chagrine et pendant 3 mois à tapoter tous les jours sur un événement. Alors ça aussi, quand tu vois ça, tu dis « oh là là !» Et là, je vais partager pour une fois mon expérience personnelle à moi. Comme beaucoup de gens, je me suis dit « oh là là !» Et puis je me suis dit « bon, il paraît qu'il faut le faire ». Donc j'ai commencé maintes et maintes fois, avec plus ou moins d'enthousiasme. Ça s'est fini à chaque fois avec un merveilleux flop, jusqu'au jour où j'ai décidé. Tu te souviens, tout à l'heure, je disais impossibilité, 2 décisions, 3 actions. Avant, j'avais exploré les possibilités, j'avais vaguement pris une décision, mais enfin, c'est très vague, la décision. Ce jour-là, elle est devenue réelle. Et là, je suis passée à l'action. Là, j'ai commencé avec, on va dire, 4 ou 5 événements, péniblement extrait de ma petite tête, mais je m'y suis tenue. Et petit à petit, il y a d'autres événements qui sont apparus, 10, 20, 100, 120, enfin bref. J'ai pas forcément tapoté tous les jours pendant 3 mois. Il y a eu des périodes sans. La vie nous amène des opportunités, on va dire. Mais j'ai prolongé au-delà des 3 mois pour aller au bout de ma liste, tout simplement. Quand on cherche, on trouve. Alors, commencez à enquêter. Vous pouvez aussi observer les refrains qui reviennent régulièrement dans votre discours, des expressions qui peuvent définir votre manière de voir les choses. En général, on se rend pas compte soi-même. Demandez à des personnes qui vous sont proches. Eux savent quelles expressions vous utilisez régulièrement. Revoyez vos croyances, surtout par rapport à la maladie. Dans une discussion récente, quelqu'un m'a expliqué que ses migraines étaient dues à son bagage génétique, peut-être. Encore une fois, je ne suis pas médecin, et puis cette personne non plus, d'ailleurs. Et il semble en effet qu'un gène soit en partie responsable des migraines dues génétiques. Mais, encore une fois, quand on cherche, on tombe sur une autre théorie passionnante qui s'appelle l'épigénétique. Qui nous apprend que nos gènes ne sont pas du tout figés. Donc, s'ils ont muté dans un sens, ils peuvent muter dans l'autre.
Oui, les émotions influent sur l'ADN.
Exactement. Donc,
développer dans une autre conférence.
Et ben voilà. Donc, quand vous pensez à votre maladie, quelles sont les vérités, entre guillemets, qui vous viennent à l'esprit? Sont-elles bien vraies?
Très bien. Merci beaucoup, Christine, pour toutes ces pistes. Pour éliminer les événements du passé qui continuent à créer un stress aujourd'hui et qui créent peut-être un terrain favorable à la maladie. Rapidement, en conclusion, avant de passer aux questions.
En conclusion, la vie est une suite de choix. Donc, vous avez le choix de voir votre maladie comme une punition, comme un message. Si on prend l'option de le regarder comme un message, oui, on peut encore agir, même sur ce qui paraît très lointain, même quand la maladie est déjà bien installée. Il ne s'agit pas de changer le passé, mais de changer la manière dont nous le vivons aujourd'hui encore, de libérer tout notre être d'une charge qui gâche tant d'énergie. En fait, si tu veux, c'est un peu une forme de développement durable. Tu sais que c'est une autre de mes passions. C'est un recyclage des charges du passé en énergie créatrice et guérissante. Ça te va? Pas mal, hein? Donc, je vous rappelle, 1, possibilité, 2, décision, 3, action, pratiquer le zéro jugement, ayez de la compassion pour la personne que vous étiez dans ces événements passés, celle que vous êtes aujourd'hui. Aucun événement n'est trop petit pour être insignifiant. Revoyez tout ça, les événements, les personnes, les croyances, vos croyances par rapport à la maladie, persister. Mais avec patience. Rassure-moi, Maria, quand tu vois un bébé qui apprend à marcher, qui se casse la figure, tu lui donnes pas un coup de pied au derrière pour qu'il avance plus vite?
Ben, pas la première fois, en tout cas. Bon. Mes enfants ont marché très tôt.
Ah bon, il y a de la chance, dont j'ai l'impression. En tout cas, là, c'est pareil. Donnez-vous le temps de faire votre chemin.
Bien sûr, patience, bienveillance.
Patience et bienveillance. En plus, vous pourriez peut-être un jour découvrir que c'était exactement le chemin qui vous convenait. Et puis, faites-vous aider. Si vous êtes dans un groupe de soutien lié à votre maladie, vous pouvez tapoter avec ces gens-là. Vous pouvez tapoter avec un proche. Et puis, pensez à la possibilité de suivre un programme ou de travailler en direct avec une professionnelle. Et puis, prenez chaque moment comme il vient. Soyez curieux. Pratiquez la gratitude, voire le pardon. Et vous découvrirez peut-être en vous plein de solutions.
J'en suis sûre. Merci. Merci encore, Christine, pour toutes ces pistes. On va se retrouver dans le chat dans quelques instants pour répondre à vos questions. À tout de suite.
Et maintenant, nous allons retrouver Christine.
Christine, je vais rouvrir ta ligne. Ok, alors, y a-t-il des questions dans le chat?
Oui, il y en a, oui. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, attends, je vais commencer par les plus simples. Il y en a plusieurs. Sur le point des poignets, est-ce que c'est le même que le point du bout des doigts? Oui et non, en fait, tous les méridiens passent par le poignet, évidemment, pour arriver jusqu'au bout de la main. Et l'idée est de taper l'intérieur des poignets l'un contre l'autre. C'est assez, la zone est assez large, on n'est pas dans la précision de l'acupuncture. Il y a Cathy, quelque chose, qui dit « Merci, j'ai découvert les points des poignets l'an dernier, grâce à toi ou grâce à vous, j'ai pas vu. Je les utilise depuis, ça marche très bien. » En fait, ce sont des points qui sont très actifs en cas d'anxiété. Je ne sais pas si vous connaissez les bracelets qu'on vend pour le mal au cœur, qui appuient justement sur ce point-là. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question sur les poignets.
Ok, oui, c'est vrai que ce point n'est pas systématiquement utilisé, hein.
Non, mais j'ai remarqué que pour l'anxiété, ça aidait beaucoup.
Oui.
Il y a aussi un certain nombre de questions sur combien de temps faut tapoter, la tournure des phrases, ce genre de choses. Combien de temps faut tapoter? Théoriquement, on part de l'idée de tapoter 7 fois sur chaque point. Maintenant, l'EFT est un processus qui est très, très flexible. Dans certaines situations, il m'arrive de tapoter 2 fois sur chaque point. Dans d'autres, d'y rester 20 ou 30 fois. C'est vraiment, faites-le comme votre inspiration le dit. Il y a des questions sur... Alors, concrètement, quand on veut travailler en EFT, sur un événement, comment faire? C'est ce que tu dis, je crois. Ben, simplement, une première idée facile, c'est de raconter l'événement comme vous le raconteriez à quelqu'un et de tapoter en même temps. Et vous allez repérer les moments que vous racontez qui sont particulièrement sensibles. Arrêtez-vous à ce moment-là et tapotez sur cet instant. Recherchez le sentiment que vous avez à ce moment-là et développez ça. Après, recommencez à raconter l'événement et en tapotant, et vous allez voir que vous arrivez de plus en plus loin. Une autre option aussi, c'est de les écrire avec plus ou moins de détails. Ça dépend de l'événement et ça dépend de l'importance de la souffrance. Mais le fait d'écrire, ça permet d'arrêter un petit peu le cerveau, de ralentir un petit peu et de prendre les choses au fur et à mesure. Ensuite, il y a un certain nombre de maladies. Est-ce que ça peut... Je le vois plus là, je ne sais plus qui est-ce qui l'a demandé, mais j'ai vu quelque chose, je crois, sur le lupus, sur une hydrocèle, sur le diabète de type 1, est-ce que ça peut marcher? On n'est pas là pour faire des fausses promesses. L'EFT va vous aider à vous libérer d'émotions qui ont un impact, et ça on sait de plus en plus, au niveau physique. Comme disait Gary Gray, essayez-le sur tout. Donc, j'ai vu passer un certain nombre de maladies, je n'ai pas toutes vu passer. Je pense que quand on commence à explorer chaque maladie, on trouve un certain nombre d'émotions clés Le cancer, notamment, il y a souvent beaucoup de colère. Donc, essayez, tout est possible. Je vois passer le commentaire de Nassira qui a couru pour ne pas rater la conférence, surtout en toute sécurité, hein, on ne casse pas la figure.
Comme Nassira, pour pas gagner les feux, il y a la réécoute. Hein.
Non, Saturne qui dit merci pour l'énergie renouvelable, je crois que ça nous concerne tous.
On a des questions, pour tel problème, y a-t-il des phrases spécifiques? Est-ce que tu peux adresser un peu cette...
Les phrases spécifiques du problème, ce sont celles que vous dites vous-même. Quand vous parlez, là je revois passer le diabète de type 1, quand vous parlez de ce diabète, qu'est-ce que vous dites à son propos? Je l'ai depuis 13 ans, il n'y a pas de solution. Même si j'ai ce diabète depuis 13 ans et qu'on me dit qu'il n'y a pas de solution, je m'ouvre à la possibilité d'avoir un degré de soulagement. On veut commencer par là déjà. Prenez ce qui vous heurte dans le diagnostic. Si, comme tu disais, j'avais beaucoup parlé du diagnostic justement, de quand on reçoit le diagnostic, je pense en ce moment beaucoup à la maladie de Lyme où les diagnostics sont très peu clairs et mettent très longtemps à arriver. C'est vraiment une grosse souffrance. Donc quand vous parlez de votre maladie, repensez déjà, commencez par le moment du diagnostic, quand on vous a annoncé, qu'est-ce que ça vous a fait? Le choc, la peur, l'impuissance. La manière dont ça a été annoncé aussi, parce qu'il y a des fois c'est annoncé pour s'approcher. Hein. Donc, commencez déjà par là. Et après ça, continuez avec les symptômes. Alors, quand on est dans la maladie, il est relativement aisé de travailler sur les symptômes parce qu'on les sent. Ils sont là, ils sont physiques, c'est une douleur. Donc, même si j'ai mal dans le sein, par exemple un cancer du sein, je m'ouvre à la possibilité de m'apaiser. Ou je choisis de me concentrer sur ma respiration, ou utiliser la gratitude aussi, j'en ai pas beaucoup parlé parce qu'on n'a pas assez de temps pour parler de tout, mais je suis reconnaissante de quelque chose que vous avez dans votre vie, au moins je respire, au moins je suis là, quelque chose comme ça. Donc pensez aux symptômes déjà, mais ceci dit, quand on est en situation de maladie, travailler sur les symptômes c'est bien, ça soulage, mais c'est un petit peu comme de mettre un pansement sur une grosse blessure, ça résout pas vraiment le problème à la racine. À ce sujet, quelque chose qui peut peut-être aider, j'ai créé un programme en 7 semaines, c'est le chiffre 7, pour permettre à chacun de vraiment s'engager sur une démarche, sur un chemin de guérison. Alors quand je dis guérison, bien sûr, c'est pas une démarche médicale, hein, mais c'est une démarche de prise en main, justement, pour prendre en main tous ces aspects. Et c'est destiné plutôt aux débutants, mais aussi à ceux qui pratiquent l'EFT et qui recherchent une approche plus structurée, que vous pouvez prendre de vous-même. L'idée, c'est d'explorer vos déclencheurs. Qu'est-ce qui, chez vous, déclenche la douleur? Qu'est-ce qui déclenche une colère? Qu'est-ce qui déclenche une impuissance? Cette semaine, j'avais choisi cette semaine parce que c'est le temps de s'approprier sa version de l'EFT dans tous les domaines de la vie, la relation avec les autres, le bagage émotionnel, votre histoire, tous ces aspects qui s'entraînent dans la maladie. Voilà, donc ça c'est une option, de suivre un programme comme ça. Quand on est dans une maladie assez grave, je vous conseille fortement de vous faire aider par quelqu'un avec qui vous sentez en sécurité, avec qui vous êtes en confiance. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai repéré.
Excuse-moi Christine, il y a Isado qui dit, elle l'a posté plusieurs fois, je me permets de prendre sa remarque et sa question. Après la séance EFT, j'ai ressenti une vive douleur dans le dos. Est-ce qu'il peut y avoir un rapport avec la séance et que dois-je faire?
Alors, est-ce qu'il peut y avoir un rapport avec la séance? Oui. Que faire? Encore une fois, c'est le corps qui manifeste quelque chose. À quoi est-ce que vous associez cette douleur? À qui est-ce que vous associez cette douleur? Les douleurs dans le dos, c'est souvent des problèmes de soutien. On se sent pas soutenu. Dans quelle mesure est-ce que vous ne vous sentez pas soutenu? Continuez à tapoter. Concentrez-vous sur la respiration, comme on disait, ça va sans doute faire descendre la douleur. Mais derrière, il y a probablement quelque chose à explorer. Donc dites-nous si la douleur continue. Mais bon, point de karaté, même si cette douleur est apparue et sortie de nulle part, je m'ouvre à la possibilité d'entendre ce qu'elle veut me dire. Et je choisis de lui rendre sa liberté. Ça paraît idiot à dire, mais ça a des fois des aspects assez intéressants.
En tout cas, un des conseils qu'on pourrait donner, c'est quand quelque chose apparaît et quand on fait de l'EFT, si quelque chose d'autre apparaît, c'est de continuer les tapotements.
Oui.
Jusqu'à ce que ça s'apaise ou disparaisse. Mais on aurait tendance comme un réflexe à dire « Ah, c'est à cause de l'EFT, c'est à cause de ces tapotements que ça se déclenche, alors j'arrête tout de suite. » Et c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est continuer les tapotements, faire confiance au processus jusqu'à ce que ça s'apaise.
Exactement.
Tu serais d'accord avec ça, Christine ?
Ah, complètement. Complètement. C'est encore, ça me fait penser que on a oublié de parler de quelque chose, Maria, on a oublié de parler du bonus.
Oui. Oui, et Christine, il y a deux, trois personnes qui disent « Oh là là, qu'est-ce que vous parlez vite, Christine ? Est-ce que tu peux ramener le débit ?»
Mais non, il y en a tellement à dire.
C'est ça, en fait, je crois que je veux en dire trop.
Il faudra qu'on ralentisse la réécoute. Je vais en parler à Bertrand, je ne sais pas si c'est possible.
D'accord. Oui, ça risque de faire une voix un petit peu grave. Bon, je vais essayer de faire ma voix normale plus lentement. La raison pour laquelle... Pardon ?
Juste ralentir un peu.
D'accord. La raison pour laquelle ça me fait penser au bonus, c'est parce que donc l'EFT, c'est un outil merveilleux qui va évidemment pair avec une bonne hygiène de vie. Alors, je ne dis pas que ça s'applique à tout le monde, hein, mais il y a 2 ans, j'ai commencé à découvrir le monde du jeûne, un peu par hasard, et ça m'a un peu intriguée. Et depuis, je ne cesse d'en apprendre plus sur les aspects thérapeutiques, curatifs ou préventifs d'ailleurs, du jeûne, qui sont très méconnus, du moins en France, pas forcément ailleurs. Alors, du coup, j'ai moi-même commencé à utiliser ce qu'on appelle le jeûne intermittent et j'ai constaté qu'effectivement, ça amène beaucoup de bénéfices et comme l'EFT, bah, j'ai envie de diffuser l'information à tous ceux à qui ça pourrait servir. Le problème, c'est que quand on dit jeûne, tout le monde réagit avec beaucoup de questions et de résistance. Et quel est l'outil privilégié pour transformer nos résistances ?
L'EFT.
Quelqu'un qui répond ? Ah bon, quand même. Voilà. Donc, l'hypothèse que je propose en bonus, qui est de jeûner en tapotant, permet justement d'aller au-delà des résistances. Et quand vous vous renseignez un peu sur le jeûne, l'une des questions, c'est « Ah oui, mais ça va affaiblir. » Alors que dans la réalité, c'est exactement le contraire. L'organisme va mettre en place un processus de guérison parce qu'il aura plus, entre autres, il aura plus à s'occuper de la digestion, il va remettre une énergie ailleurs. Donc là, quand on se dit c'est l'EFT qui a déclenché la douleur dans le dos, faut que j'arrête. Non, l'EFT a fait remonter quelque chose que vous avez, si c'est remonté maintenant, c'est que vous avez la capacité de le gérer. C'est que vous avez la capacité de transformer cette douleur en quelque chose d'autre. Est-ce que c'est pas aussi intéressant dans les traumas d'actes refoulés de faire revivre la situation en changeant la façon, par exemple, pour la fessée, faire revivre l'histoire qui se termine sans la fessée, mais autrement? Absolument. C'est une pratique que j'utilise beaucoup avec ce qu'on appelle le matrix reimprinting, qui consiste à revivre un événement passé et à le transformer. Alors, quand on n'a jamais touché à l'EFT ni au matrix reimprinting, ça paraît complètement aberrant, mais on va en fait revivre l'événement en tapotant, ce qui va permettre de désamorcer les émotions, de les changer, de les transformer. Ce qui fait qu'au bout du compte, au lieu d'avoir un souvenir qui est douloureux sur cette situation, on a un souvenir qui est empowering, qui vous rend votre puissance personnelle. C'est le cas, comment je l'avais appelé, Clara, je crois, de cette personne qui avait, des deux personnes que j'ai citées, qui avaient des événements dont on ne pouvait pas parler. En les revoyant, en les revisitant, en faisant face, quand on fait face à une peur, la peur disparaît en général. Mais en y faisant un nouveau face et en la transformant, ça a beaucoup allégé effectivement la situation. Interrompez-moi hein, si vous voyez des questions que moi j'ai pas vues parce que ça défile tellement, je peux pas suivre.
Ça défile vraiment vite.
J'ai repéré des assertions négatives parmi les phrases, ne vaut-il pas mieux éviter ces jugements négatifs? Non.
Ah, vas-y.
On va commencer par oui. Ok.
Reparlons de la place du négatif dans l'EFT.
Voilà. Essayez de dire j'ai pas mal. Est-ce que ça marche? Normalement, non. Parce que bah, la douleur, elle est là. On ne peut pas faire autrement, elle est là, on ne peut pas l'ignorer, on peut se mettre des lunettes noires si on veut, mais ça ne va rien changer. Donc, elle a besoin, quelque part, d'être entendue. le fait d'en parler tout en tapotant les points, en stimulant les points, ça permet de réaligner l'énergie qui est associée à cette douleur et ça permet de faire évoluer la chose. Alors que si on ne fait que du positif, et la pensée positive, c'est merveilleux, jusqu'à un certain point. Parce que vous pouvez mettre le plus joli sourire du monde, la plus belle tenue du monde, si au fond de vous, vous êtes malheureuse, ça ne va rien changer. Il faut d'abord pouvoir exprimer ce qui ne va pas avant de pouvoir vraiment remplacer cette douleur, remplacer cette souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, par autre chose. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'en parle pas. Alors, il y a l'exemple classique de celui qui va chez le dentiste, et quand le dentiste lui dit « vous avez mal où ?», il répond « oh ben non, je ne voudrais pas être négatif, donc on va parler de petits oiseaux plutôt. » Ben ouais, mais... Comment je fais, moi, pour vous soigner? Donc non, il faut dire les choses telles que vous les ressentez. Cathy, est-ce que le surpoids peut être lié à tous les traumas subis? Comment y remédier? Même si c'est pas lié à la nourriture, le surpoids est... Alors évidemment, c'est un ensemble, mais c'est aussi très souvent une protection. Ça peut être une protection contre une douleur, ça peut être une manière d'être vu quand on a l'impression de ne jamais être vu. J'ai vu des personnes chez qui c'était au contraire une manière d'être entendue parce que c'était des personnes qui étaient extrêmement belles à leur poids normal, qui fait que les gens les regardaient au lieu de les écouter. Ça les énervait, donc ils mangent, comme ça on les écoute, on les regarde moins. Donc il y a tout un tas de souvenirs qui peuvent effectivement être nettoyés pour aider au surpoids.
Et puis, par rapport au poids, il y a eu la conférence hier soir de Karine Barco où elle a largement parlé de la part émotionnelle dans le poids. Cette conférence est encore à la réécoute. C'est ça, Maria, jusqu'à ce soir, hein, 23h
oui, à peu soir, près. 23h.
Donc, si vous êtes intéressé, si vous n'avez pas encore écouté cette conférence, vous pouvez aller la réécouter. Elle est vraiment dans le cœur de ces propos-là.
Et d'ailleurs, nous avons reçu un témoignage par mail de quelqu'un qui disait « Je ne pensais pas écouter cette conférence parce que le problème de poids ne me concerne pas, mais finalement, j'ai écouté quand même. Et qu'est-ce que j'ai bien fait ?» Parce qu'il y a eu plein de prises de conscience. Oui. Donc, elle parle de beaucoup de choses. Acceptation de soi, faire la paix avec son corps, même si le problème n'est pas forcément le poids. Oui. Christine, il y a plusieurs personnes qui parlent de... J'ai perdu la question. De comment faire de l'EFT pour quelqu'un d'autre?
Exprime-toi.
Voilà. Je voudrais pratiquer l'EFT pour soulager les douleurs intenses de ma mère suite à une longue période de coma. Elle n'arrive pratiquement plus à marcher. Donc là, c'est le cas de quelqu'un qui ne peut pas le faire ou éventuellement, il y avait d'autres questions pour quelqu'un qui est totalement fermé à ça et qui ne veut pas le faire. Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus?
Alors là, oui, j'ai carrément écrit toute une page là-dessus sur mon site parce que c'est une question qui revient tellement souvent.
Ah oui, on l'a pratiquement tous les soirs. Donc,
tous les congrès depuis 4 ou 5 ans. Donc,
on veut tous le bien des gens qu'on aime. Et on voudrait leur bien-être et on voudrait qu'ils se guérissent. C'est normal. Et c'est possible dans une certaine mesure. Mais alors, tu as cité plusieurs cas. Le cas de la personne qui sort d'un coma et qui ne peut pas du tout se déplacer, qui ne peut pas bouger. Une option, c'est que la personne qui parle, je n'ai pas retenu les noms, puisse tapoter sur sa mère elle-même en simplement en parlant doucement, en stimulant les points un par un. Donc ça c'est une option déjà qui peut amener des résultats. Ensuite, quand il s'agit d'un enfant, d'un parent, d'un conjoint, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que vous voulez que cette personne tapote? Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Est-ce que ça vous rend triste? Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que ça vous exaspère? La première chose à faire, c'est vraiment de tapoter sur soi, sur ce qu'on ressent par rapport à cette personne. Il y a autre chose aussi qu'on n'a pas du tout abordé, qui est un outil merveilleux, qui s'appelle Ho'oponopono. et qui consiste à prendre la pleine responsabilité, en fait, de ce qu'on a dans notre vie, y compris ce qu'on voit autour des autres. Alors, il y a une formule magique qui fait sourire quand on l'entend la première fois, qui est en quatre étapes, qui est de dire à la personne avec qui on a un problème de conflit, je t'aime, je suis désolée de ce qui t'arrive, en gros, s'il te plaît, pardonne-moi, même si a priori j'ai rien à voir dans l'histoire, merci. Donc la fameuse gratitude dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose que je vous engage à explorer, particulièrement dans le cas d'un conjoint ou d'un enfant, ou d'un parent, de quelqu'un de relativement proche, parce que c'est, sauf certains cas, c'est en général plus facile de dire ces phrases-là. Et vous allez voir qu'en tapotant avec ces phrases-là, vous allez vous-même déjà vous apaiser. Et vous pourriez bien constater que de l'autre côté, il y a un apaisement et qu'il va y avoir un début de dialogue. Il y a aussi le fait que quand vous êtes vous-même un petit peu sur les nerfs de voir cette personne qui ne veut rien faire ou qui ne veut pas faire ce que vous pensez qu'il serait bon pour elle, cette personne le ressent. Si vous tapotez et que vous êtes vous-même calme, en retournant voir cette personne et lui dire « tu sais, je crois que ça pourrait être utile », quand cette personne va voir que vous-même, vous vous êtes vraiment apaisé, là, c'est pas pour ça qu'il va écouter ou qu'elle va écouter ce que vous dites, mais ça peut l'amener à se dire « ça a quand même l'air de marcher ce truc-là, peut-être que je vais essayer, est-ce que ça répond ?»
Bon, c'est en tout cas un début de réponse. Le Ho'oponopono est une méthode vraiment ancienne. Et on a marqué dans le chat comment ça s'écrit. C'est Ho'oponopono. Et puis notre ami Google donne tout un tas de renseignements là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'EFT qui connaissent cette méthode-là et qui peuvent cumuler les deux. On peut faire du tapping tout en faisant le Ho'oponopono. C'est vraiment un bon complément avec l'EFT et le désir de se libérer de nos mémoires et de nos programmes.
Et en plus, c'est très rigolo, je l'ai utilisé avec des clients dans des situations de voisinage difficiles ou avec des avocats ou avec des médecins un petit peu difficiles à gérer ou des choses comme ça. Et c'est très drôle de voir les situations se tourner.
Oui, c'est une très belle
Alors, Lina, remets ta question pour ta mère qui sort de coma. Une personne Lina. Qui ne peut pas tapoter. Je crois qu'on s'en est arrêté à
le faire tapoter, pour de tapoter sur elle. Déjà, de stimuler les points sur elle, même sans rien dire, ou en essayant, si elle peut parler, de rephraser sa douleur. De rephraser sa douleur et de tapoter sur les aspects particuliers de sa douleur. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une peur de la mort, par exemple? C'est difficile, mais c'est des choses à considérer. Est-ce que sur la frustration de ne pas pouvoir bouger, sur la douleur à respirer, peut-être? Donc, je ne sais pas, c'est un cas très particulier. Mais oui, on peut faire quelque chose. Et là aussi, évidemment, tapoter d'abord sur soi-même pour trouver la paix en soi avant de vouloir aider quelqu'un d'autre. Oui. Sinon on ne fait qu'additionner sa propre douleur à la douleur de la personne qu'on veut aider. Et ça marche pas très bien.
Ça marche pas très bien. On peut aussi le faire ensemble, c'est-à-dire peut-être que Lina peut, en allant rendre une visite à sa mère, taper elle sur elle, et puis cette personne tapotait sur elle-même ou
si elle est en position physique de le faire, oui.
Oui. Ou en effet miroir, c'est-à-dire Lina peut tapoter sur elle pendant que sa mère la regarde faire.
Oui, il y a ça aussi, effectivement.
Il y a aussi tapoter sur soi seul pour se libérer, bien sûr, de toute la peine que nous fait la souffrance vue chez des gens qu'on aime.
Oui. Et il y a aussi le fait, alors ça c'est plutôt avec les enfants qu'on l'utilise, mais dans ce cas-là c'est peut-être une bonne idée, de tapoter sur soi-même en imaginant qu'on est cette personne, en imaginant les souffrances de cette personne. Mais ça demande un petit peu plus de pratique.
Oui, tout à fait.
J'ai vu un 77 Ariane qui disait « À 6 ans, j'ai été coupée de ma famille durant 3 mois et je n'ai aucun souvenir de cette période ni de l'année qui a suivi. J'ai été traitée pour la tuberculose, que je n'avais pas. J'ai peut-être eu très peur de mourir, j'utilise l'EFT, mais ne sais pas trop comment m'y prendre avec ça. Les problèmes d'abandon dans l'enfance et les problèmes respiratoires sont souvent liés. Quand c'est quelque chose qui est tellement enfoui, tellement ancien, je vous conseillerais de vous faire aider. Parce que c'est vraiment pas facile d'explorer ce genre de choses seul. Vous pouvez tapoter sur ce que vous connaissez de l'histoire, même si j'ai peut-être eu très peur de mourir, ou même si je me suis peut-être sentie abandonnée, même si j'ai eu l'impression de ne pas être aimée. Vous pouvez déjà voir où ça va vous-même. Mais je vous conseillerais quand même plutôt de travailler avec quelqu'un. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles?
Alors, justement, il y a des personnes qui demandent comment travailler avec toi. Est-ce que tu travailles par Skype? Et j'ai répondu que oui, et heureusement, parce que tu es basée en Irlande.
Oui.
Donc, oui, je travaille. Site EFT pratique, tout collé. Je le répète parce que nous avons avec nous au moins Cathy, qui est malvoyante, et peut-être d'autres aussi.
Donc, il faut bien épeler.
Voilà, le site de Christine, c'est www.eft. Ça, vous savez comment ça s'écrit maintenant.
Oui, mais c'est pour sa boîte.
Ouais. Donc, EFT pratique.com. PRATIQUE.com.
Voilà. Donc, oui, pour ceux qui veulent travailler avec moi, bah, le plus simple, c'est de me contacter par la page de contact sur EFTpratique.com, www d'abord.
Et vous pouvez mettre vos messages et vos questions précises dans la page de réécoute qui sera en ligne ce soir.
Exact. Et en général, je propose d'abord un premier entretien pour explorer les possibilités et voir quelle est la meilleure solution pour chaque personne. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme question?
Alors là, je repère des commentaires. C'est pas vraiment des questions. Je cherche en même temps que toi.
Alors tiens, j'ai vu Mimi de B. Je souffre des mêmes douleurs depuis l'âge de 11 ans. Ma maladie a été décelée il y a 3 ans. J'en ai 36. Et mon intérêt dans les médecines douces dans la MTC m'ont permis un énorme travail sur moi. J'ai une spondyarthrite et je dis merci à ma maladie car elle m'a menée jusqu'à l'EFT. Bravo. La j'arriverai jamais à dire ce truc-là. Spondylarthropathie, ça me fait toujours penser à mon copain Norman Cousins. Son livre est traduit en français « Comment je me suis guérie par le rire ». Ça date des années 70, il ne connaissait pas l'EFT. Mais c'est très instructif. Fibromyalgie qui manque de confiance en moi, difficulté à me concentrer même en tapotant. Le tapotage est tout récent pour moi. Persister, petit à petit, même 3 minutes par jour pour commencer. Et ça va se construire. Vous allez apprendre à tapoter pour vos douleurs, et je sais qu'il y en a dans la fibromyalgie, au fur et à mesure, un petit peu à chaque fois. Patience et persistance.
Patience, persistance, persévérance. Tout à fait.
Yep. Est-ce que vous voyez d'autres...
Alors après, c'est toujours un peu les mêmes questions. Acouphène guérissable, est-ce que c'est guérissable? De mon expérience, oui. L'EFT a eu des résultats sur les acouphènes. Mais on pourrait presque dire que l'EFT a des résultats sur quasi toutes les maladies, dans le sens où, comme elle gère le stress, et que toute maladie engendre un stress, quand on enlève ce stress-là, même si on n'a pas de guérison ou même si on n'a pas de baisse au niveau des symptômes, en tout cas, ça permet aux gens de vivre mieux.
Absolument. Tu es
d'accord avec ça, Christine?
Ah, complètement. Complètement.
On peut avoir des séances où la personne va dire « Non, ça n'a rien changé à mes symptômes, j'ai toujours aussi mal, j'ai toujours mal aussi souvent ». Je ne peux pas dire que ça a changé grand-chose à ma maladie et à sa manifestation, mais moi, je me sens mieux dans ma tête, je me sens moins déprimée, je me sens moins découragée, je retrouve une meilleure énergie. Donc, dans ce sens, on pourrait dire que l'EFT a amené quelque chose à la personne.
C'est le cas de Clara que j'ai cité tout à l'heure, c'est une maladie orpheline. Elle m'a envoyé un très très joli message juste avant la conférence, là. Enfin, j'ai pensé à elle. Bonjour au passage, tu te reconnais. Sa maladie n'est pas guérie, mais à chaque événement qu'on a travaillé, ça lui a amené un soulagement, et je pense pas qu'elle me contredira là. Elle m'a dit une fois, je me suis rendu compte tout d'un coup que quand je suis détendue, eh ben, j'ai moins de douleur. Alors maintenant, Est-ce que ça va la guérir complètement? On n'en sait rien. Mais, comme tu disais Noël, à chaque travail, c'est quelque chose de moins qu'on a apporté, c'est quelque chose de moins qu'on a à souffrir. Et toute l'énergie que le corps met à couvrir la souffrance pour nous en protéger, s'il n'a plus à couvrir la souffrance, il peut se rediriger sur la guérison et sur le calme.
Donc je regarde les questions en même temps que toi.
Ok.
Bon, une dernière question. Valérie P. demandait, pour les femmes enceintes, est-ce qu'il y a un danger pour le bébé ou pour...
Ou pour la maman.
Et
ou pour le mari.
Et le chien et les grands-parents.
L'EFT dans le cadre de la femme enceinte.
Alors, l'EFT dans le cadre de la femme enceinte. Le simple bon sens dirait que si il y a un gros traumatisme, il faut y aller avec beaucoup de douceur. Maintenant, dans la pratique quotidienne de l'EFT, honnêtement, je ne vois pas bien où pourrait être le danger dans la mesure où ça amène la paix et la sérénité. Et alors ça, le nouveau-né, il ne demande pas mieux. Plus on lui en donne, et plus il est content. Et mieux la naissance se passe.
Il y a du stress, mieux se portera tout le monde.
Exactement. Si j'avais connu l'EFT quand j'étais enceinte, je peux vous dire que mon accouchement aurait été beaucoup plus facile.
Oui. Et puis, donc, sur le congrès 2013, je crois, donné par Sabrina Géniez,
c'est quoi
sur l'EFT dans le cadre de la femme enceinte, me semble-t-il.
Oui, tout à fait.
Et en tout cas, elle a deux grossesses dernièrement et elle a toujours pratiqué l'EFT pendant ses grossesses.
Oui, j'avoue que c'est un domaine que je n'ai jamais vraiment exploré, mais oui, effectivement, Sabrina en avait très bien parlé.
Oui, elle en avait super bien parlé et en disant aussi, si la maman ne sent pas... la nécessité ou l'envie de tapoter, s'il trouve ça assez désagréable, le bon sens fait dire que ben faut arrêter à ce moment-là. Mais a priori, le tapping quand on est enceinte ne nuit à personne.
Non.
On va clôturer.
Je peux dire juste une dernière.
Oui, vas-y.
Une toute petite. Vas-y. J'ai vu. Est-ce que cela peut aider dans le cas d'Alzheimer? Oui et non. Ça dépend à quel stade on est de la maladie d'Alzheimer. Ça peut aider à ramener le calme pour la personne qui est malade. Si on le fait assez tôt, ça peut devenir une manière de s'apaiser plus vite. C'est aussi très utile pour les accompagnants, pour aider à vivre la situation plus facilement, sachant que ce qu'on ressent se communique à la personne qui est à côté de nous. Et les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, en général, sont très sensibles aux émotions qui sont autour d'elles. Donc, si l'accompagnant travaille sur lui, il va y avoir un effet qui va se répercuter en positif chez la personne qui a la maladie d'Alzheimer. Je vous encourage aussi à explorer les travaux du docteur Newport, qui est venu à Paris il n'y a pas très très longtemps, sur l'huile de coco. Qui semble avoir des effets très surprenants sur la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, je voulais saisir l'occasion de parler de ça. Oui, il y a vraiment des choses à faire.
Je vois qu'il y a Françoise dans la salle EFT Attitude, qui est une praticienne EFT en Belgique, qui nous dit, écoutons-nous, que nous soyons malades, enceintes, trois petits points, etc. Soyons gentilles avec nous-mêmes, et l'EFT est une gentillesse qu'on s'octroie.
Exactement.
C'est un cadeau que vous faites à vous-même.
Oui. Et pour toutes ces questions, est-ce que je peux faire de l'EFT pour quelqu'un d'autre? Nous vous recommandons chaleureusement la conférence de Françoise dans le PAC 2014, où elle a parlé justement de EFT pour autrui.
Oui, exactement.
On peut même le faire pour les pieds de
tomates. Entre autres. Merci infiniment, Christine, pour cette super conférence. Merci, merci, merci. Merci pour tout ce que tu as donné et apporté.
Eh ben, merci à vous d'organiser parce que c'est vraiment très, très, très gros. Une énorme, je pense qu'on ne se rend pas compte quand on est de l'extérieur de l'énorme organisation à tous les niveaux et du temps que vous avez passé, des mois de travail que c'est de préparation pour nous, mais aussi, mais surtout pour vous.
Eh bien, c'est cadeau.
Merci les filles.
Merci Christine de le reconnaître et de le rappeler.
Merci infiniment.
Je peux juste en dire une dernière. Je suis désolée, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais effectivement, n'hésitez pas à venir sur la page de réécoute. Je ferai mon mieux pour répondre aux questions le plus rapidement possible. Je vais reprendre celles que je n'avais pas vues ce soir. Et en plus, par écrit, je ne parle pas trop vite.
Ah, super. Si, tout à fait. Hein. Il moi, je le sais.
Il ne faudra pas qu'il lise trop vite à ce moment-là. Ouais, en tout cas, voilà. Dès qu'on aura raccroché ici, il y aura la réécoute qui sera mise en place le plus vite possible et vous pourrez laisser des commentaires à Christine qui viendra répondre à toutes vos questions là-bas le plus rapidement possible. Et voilà.
Et on se retrouve à 21h.
On se retrouve à 21h.
Pour la conférence de Sylvia Vess, Libérer l'enfant intérieur et reconnecter sa dimension féminine.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bye bye.